L'échec fait mal, il laisse des traces, qu'il touche au professionnel, au relationnel ou à l'intime. L'échec entraîne la mise en doute de ses propres capacités, la défiance par rapport à autrui. Et il peut même aboutir à la perte du goût de vivre. À l'enseigne des Vues d'Esprit, cette semaine, nous vous proposons une série d'émissions intitulée « Regards croyants sur les échecs de la vie ». Aujourd'hui, nous recevons Jacques Poujol, pasteur et psychothérapeute français. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette édition des Vues d'Esprit.
À vue d'esprit, Michel Cocher.
Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors vous nous proposez aujourd'hui un pas du côté de la Bible avec Jacques Poujol, pasteur, psychothérapeute, qui donne des formations sur la vie conjugale et sur le développement personnel dans des milieux d'église, mais aussi en entreprise.
Mais ce qui m'a intéressé avec lui, c'est de préciser le regard que pose la Bible sur l'échec. Alors souvent, on voit la Bible comme une sorte de saga déroulant devant nos yeux ses portraits de héros. Mais loin d'être cela, ce livre commun aux juifs et aux chrétiens parle de manière très franche des échecs des grandes personnalités, des grandes figures qui ont marqué tant l'histoire juive que chrétienne. Voilà donc un parcours de quelques grandes figures de la Bible marquées par l'échec avec le psychothérapeute Jacques Poujol.
Je pense qu'on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais une qui est très connue, c'est, je pense, la vie de David, du roi David, qui sait mener une vie professionnelle, j'ai envie de dire, du domaine du politique, du militaire, tout ça, assez bien, mais qui, dans sa vie personnelle, dans sa vie relationnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie de couple aussi, va quand même connaître des échecs cuisants, quoi.
Est-ce que vous auriez un exemple d'échec particulièrement cuisant qu'a connu le roi David ?
Oui, par rapport à une de ses femmes, puisque la polygamie était de règle à l'époque, qui se moque de lui quand il se laisse aller à danser, par exemple. Hein, voilà, on voit qu'il n'a pas réussi à construire quelque chose avec cette femme qui pourtant il l'aimait. Donc ça, on retrouvera cet échec par rapport à ses enfants aussi. Hein, il ne saura pas leur communiquer une vision, je dirais, de lui en tant que père. Hein.
Donc finalement, il y aurait dans la personnalité de David une sorte d'échec au niveau de la communication, une incapacité à véritablement se faire aimer pour ce qu'il est ?
Oui, je pense que David souffre d'un problème qui est peut-être courant à l'époque, mais qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est qu'il a un défaut, je dirais, de rapport construit avec ses parents, quoi. Et en particulier avec sa mère et son père, bien sûr, quoi. On sait que David, quand on connaît son histoire, on sait que David va naître dans une relation adultérine. D'accord? Donc, sa mère n'est que la maîtresse et pas reconnue du père. Ce qui explique, quand on connaît les textes, que David est rejeté par la famille, rejeté par les frères, tout cela. Même quand le prophète vient pour chercher un roi, on présente tous les frères, sauf lui, qui n'existe pas, qui est en quelque part le non-existant. Lui-même se nommera dans les psaumes, en parlant de lui de manière assez négative à ce moment-là, quoi. Et c'est cette blessure-là de rejet, de non-reconnaissance, qui va le poursuivre et qui va faire qu'il va avoir un rapport difficile dans la zone intime. Il va être quelqu'un qui, au niveau du faire, va être très compétent, mais au niveau de l'être intérieur et de la construction de sa personne, va souffrir. Il le dira dans les psaumes, d'ailleurs, clairement, quoi. Voilà. Je crois que, donc, on voit dans la vie de David, pour aller vite, cette souffrance, donc, qui ne lui permet pas de s'affirmer en tant que personne responsable, adulte, structurée, quoi.
S'il fallait essayer de voir le rôle que joue Dieu face à ces échecs que David connaît régulièrement, qu'est-ce que vous diriez ?
Je pense que le comportement, si on peut parler de comportement de Dieu, il est un peu toujours le même. Il nous laisse aller au bout de nous-mêmes. Il ne va pas intervenir, mettre des panneaux stop avant que David aille trop loin. Hein, puisque David, ces problèmes de David vont l'amener même jusqu'au meurtre. Ce qui est quand même quelque chose de grave, quoi.
Donc là, c'est le meurtre du mari de la personne ou de la femme qu'il convoite.
Oui, on va dire clairement, c'est le meurtre du mari de sa maîtresse. Donc, qu'il élimine parce qu'il ne peut pas voir les conséquences de ses actes. Enfin, bon, voir dans le sens intérieur ce que ça lui ramène, ce que ça lui dit à lui de ses souffrances. Et il fait comme beaucoup de personnes, d'ailleurs, quoi. Quand il y a une souffrance trop forte, bon, on la projette ailleurs, quoi. Comme ça, on n'a pas trop à la vivre.
Dans ce contexte-là, Dieu, quel rôle joue-t-il ?
Alors, avant de voir quel rôle il peut jouer, je crois que je voudrais dire le rôle qu'on ne peut pas lui demander de jouer. Je crois que Dieu n'est pas un magicien qui intervient comme ça à tout moment dans nos vies, mais qui nous laisse aller vers nous-mêmes. Et des fois, ce nous-mêmes peut aller loin dans l'échec. Et il nous attend, c'est un peu l'histoire, on pourrait dire, du fils prodigue quelque part, et il nous attend au bout du rouleau, quand au dernier jour de la fête, comme il est dit dans l'Évangile, Jésus, le dernier jour de la fête, se tient et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Mais il y a toujours, pour les gens, un dernier jour de la fête. C'est le moment où Dieu nous attend. Je ne dirais pas que Dieu intervient, je dirais qu'il nous attend à un moment donné. Et c'est à nous, dans notre cheminement, qu'allons le rencontrer à un moment donné.
Et là, si on reprenait l'histoire de David, quand est-ce que Dieu attend David?
Bon, après le meurtre de Uri, c'est là quand Samuel vient le trouver et lui dit « tuez cet homme-là ». Après la parabole qu'il lui raconte pour lui faire comprendre qui il est vraiment. Et je crois que c'est là qu'il se rencontre lui-même. Mais il a déjà, je ne sais pas, bien l'âge mûr, bien l'âge mûr il a. Il doit avoir la cinquantaine pas loin.
Et là, de manière concrète, cet échec relationnel qui conduit au meurtre, finalement, permet à David une prise de conscience plus fine sur ce qu'il est lui-même, sur ses travers, sur la dynamique d'échec qui l'accompagne tout au long de sa vie.
Oui, il le dit clairement d'ailleurs. Il dit « tant que je me suis tu ». Mes os se consumaient. Et on sait que dans la Bible, les os, c'est un symbole de la personne, de la structure de la personne, de la personne, on va dire. Donc là, tant que je n'ai pas mis des paroles, tant que je n'ai pas abordé mon problème, tant que je n'ai pas nommé mon problème, et il nomme son problème à ce moment-là, de ce que j'ai dit tout à l'heure, cette blessure qu'il porte depuis l'enfance d'être un enfant illégitime et rejeté, tant que je n'ai pas mis des mots sur ce problème, il dit « mes os se consumaient, personne n'était pas construite ». Et là, il commence à reconstruire quelque chose. Alors, je crois que c'est là que Dieu va nous attendre pour nous donner alors un nouvel objectif, je dirais, de nous construire, non plus seulement comme David, sur ce qu'il doit faire pour prouver qu'il est, mais sur ce qu'il est intrinsèquement.
Et là, concrètement, dans l'histoire de David, Dieu apporte quoi au bout de la nuit, au bout de la fête, comme vous disiez tout à l'heure?
Je crois qu'il apporte la possibilité d'une espérance de se construire et de prendre conscience de sa valeur, non pas à partir de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est. Et ce que l'on est, on pourrait jouer sur les mots ici, d'accord, du verbe naître, du verbe être. Donc c'est d'être une créature humaine. Et parce que je suis une créature humaine, je suis une créature aimée. Et parce que je suis aimé, j'ai une destinée, Voilà. Et je crois qu'ici, il ne faut pas confondre deux mots, peut-être quand je dis cela, qui des fois sont un petit peu confondus, c'est que Dieu aurait un destin pour nous, qui serait écrit d'avance, quelque part un petit peu, avec une destinée personnelle, qui est un cheminement dans lequel nous rencontrons d'autres personnes, et nous rencontrons aussi Dieu au moment de notre vie.
Jacques Poujol, si vous aviez en quelques mots à affiner, à développer un peu ce que le face-à-face avec Dieu, au bout de la fête, comme vous disiez tout à l'heure, apporte à un David, qu'est-ce que vous mettriez encore en avant?
Je voudrais peut-être citer alors un texte de quelqu'un d'autre qui a souffert aussi, qui a rencontré Dieu aussi de cette manière-là, un petit peu l'apôtre Paul. Il dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Mais c'est un texte qui est à prendre, je veux dire, bien dans la compréhension de ce qu'il veut dire. Et je veux dire peut-être deux mots là-dessus juste. Les choses anciennes, c'est-à-dire l'ancienne façon de voir comme je me voyais avant. C'est pas de dire on tire un trait sur le passé, on tourne la page et le passé n'existe plus. Ça c'est l'enfant qui rêverait de ça, qui rêverait que s'il a fait une tache d'encre, elle disparaisse. Bon, ce qu'il dit ici, c'est qu'on peut voir les choses de manière renouvelée. Et pour David, comme pour Paul, voir les choses de manière renouvelée, c'est de les voir le regard de passer du faire à l'être pour comprendre qui il est. Et deuxièmement, donc les choses nouvelles, ici, c'est les choses vont être vues de manière renouvelée et non pas de manière à créer, de manière ex nihilo, on va dire. Il y a nettement deux mots dans les textes bibliques pour parler de ce qui est nouveau. Un mot qui nous dit les choses qui sont créées de manière tout à fait nouvelle, comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres, et puis des choses qui existent déjà, qui sont là, mais qui vont être perçues de manière renouvelée. Quand Jésus, par exemple, nous dit qu'il nous donne un commandement nouveau, en réalité, il n'est pas très nouveau, puisque déjà on le trouve dans l'Ancien Testament, ce commandement de s'aimer. Mais lui, il va y donner une couleur nouvelle. Et quand il nous est dit que donc nous devons voir nos vies de manière nouvelle, et pour David comme pour Paul et pour nous, c'est justement avec l'échec, à partir de l'échec, de voir quelque chose de nouveau peut naître.
Moi, c'est poser un regard neuf sur les choses, non pas totalement modifier, comme vous disiez tout à l'heure, la réalité concrète, mais avoir un autre regard.
Oui, avoir, on pourrait dire changer de lunettes. Hein. Donc ne pas voir que l'échec, mais de voir que dans cet échec, il y a une possibilité de construction, quoi. Je vais prendre une image. Il y a des plantes, je pense au géranium par exemple. Hein, voilà. Et quand vous les coupez, si vous les remettez en terre, ils repoussent. Hein, ça fait une bouture qui repousse. Alors, il y a une rupture, il y a une cassure, mais dans la cassure est portée la possibilité de vie nouvelle. Alors, notre vie est faite comme ça. Hein, donc, nous passons d'étape en étape, d'enfance à l'adolescence, à l'âge mûr, ainsi de suite, par des ruptures comme cela. Hein, et puis, des fois, il y a des ruptures que la vie nous fait, plus douloureuse, mais dans la rupture, et c'est l'histoire de David peut-être aussi, dans sa rupture, s'il le veut, il y a la possibilité de reconstruire de nouveau, quoi. Et mais si... à partir de ce qui a été là. Parce que le bout de géranium que je vais replanter, c'est pas une graine de géranium, c'est ce bout-là que je replante qui va repousser, quoi.
Jacques Poujol, concrètement, un David, lorsqu'il a conscience que dans sa vie s'opère une rupture, qu'il va devoir replanter ce bout de géranium dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit un peu faire l'état des choses, faire un peu l'inventaire de sa vie?
Je pense que David est placé à un point, un petit peu comme nous des fois, où nous avons le devoir ici, je dirais, de faire, de pratiquer un droit d'inventaire par rapport à ce qu'on a reçu de ceux qui ont été nos éducateurs et nos parents. Et David va devoir faire ce droit d'inventaire, qui des fois est difficile. Et des fois, par peur de ce qu'on va découvrir, on aura envie de passer un peu vite là-dessus. Et David va découvrir plusieurs choses, je pense, hein, comme blessures qui l'ont un peu traumatisé, bien sûr, quoi. Hein. La première blessure, je pense qu'il va trouver, c'est une blessure de rejet. N'étant pas incorporé avec ses autres frères à la famille, parce qu'il était, comme on l'a dit, un enfant né hors de la lignée, donc il est rejeté. Et ça, c'est jamais facile à vivre. Et quand on a été rejeté, on a toujours envie de prouver qu'on mérite sa place. Quoi. Deuxièmement, je crois que David a eu affaire à un sentiment d'abandon aussi, qui est encore différent du rejet. Quoi. C'est-à-dire que son père, même, non seulement le mettait avec les troupeaux, mais ne le reconnaissait pas comme son fils, quoi. Il rejetait la mère et l'enfant, mais il rejetait aussi le fils lui-même, puisque, je vous dis tout à l'heure, quand le prophète vient, il n'a pas de fils. David n'est pas là, quoi. Il y a aussi un problème d'humiliation qu'il a vécu, David. Et humiliation, de ne pas avoir été reconnu dans les dons qu'il avait, les valeurs qu'il avait. Il faut attendre l'histoire avec David et Goliath pour qu'on reconnaisse un petit peu. Et puis, on voit bien que ses frères se moquent de lui tout le temps, quoi. Il n'arrive pas à reconnaître sa valeur en tant que personne. Donc, je pense que plus tard aussi, il va connaître ce sentiment-là dans les rapports aux autres, mais qui était déjà présent dans sa blessure, c'est la trahison aussi. C'est un homme qui va rencontrer autour de lui beaucoup de gens qui vont le trahir. Parce que lui-même a vécu ça. Non pas qu'il a fait lui, mais il a vécu par rapport à ses frères, à ses parents, ainsi de suite. Donc il y a tout ce petit paquet, je veux dire, de douleurs qui sont là, de blessures qui sont là.
Quand il doit faire l'inventaire et qu'il doit quelque part examiner une à une pour essayer un peu d'être au clair, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire l'inventaire de manière un peu concrète? Il faut un vis-à-vis, il faut être en dialogue avec quelqu'un ou c'est quelque chose qu'on arrive à faire tout seul?
C'est difficile de se regarder courir et courir ensemble. Hein, en même temps. Donc je crois qu'on a besoin d'aide. Cette aide, donc, est une aide professionnelle. La plupart du temps, quand il s'agit de blessures importantes, ça peut être un ami quand c'est moins important, mais on a besoin d'un miroir qui nous permet de nous voir. C'est ce que fera le prophète pour David, le prophète Samuel un petit peu. Quoi, hein. Donc voilà, moi je crois qu'il y a deux ou trois choses à dire ici peut-être. Il faut que ce soit quelqu'un qui sache m'écouter. C'est-à-dire, écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sache me laisser dire ma souffrance. Et qui essaie pas de me dire ta souffrance, on va la gérer. Il faut que j'aille au bout de dire ma souffrance. Et David, dans son psaume 139, par exemple, il va dire sa souffrance. Donc s'il a dit en poésie là, ça veut dire qu'il a dit avant ailleurs, autre part, quoi, hein, avant de la mettre en prose. Donc dire sa souffrance, c'est ça. Quelqu'un qui me laisse la liberté de dire ma souffrance. C'est un peu l'histoire de la relation de Job à Dieu aussi, hein, où il dit sa souffrance et Dieu ne l'interrompt pas. Or, il faut savoir quand même que la souffrance, ça nous pose un problème quand on l'écoute, c'est qu'elle nous déstabilise, on a envie souvent de trouver une solution au problème des autres. Donc, voilà, premièrement, qu'il puisse dire sa souffrance. Deuxièmement, qu'on lui laisse le droit de ce droit d'inventaire. Et un droit d'inventaire, ça veut dire que dans un héritage, je prends ce qui m'intéresse, je ne prends pas ce qui ne m'intéresse pas. Je fais la différence entre un héritage que je prends, une hérédité, hein, que je devrais assumer malgré moi, quoi. Et je crois que là, on a un petit problème, c'est que très souvent, à cause d'un verset mal compris, je pense à « Honore ton père et ta mère », hein, où on prend le mot « honorer » comme pour le mot « vénérer », et je crois que les théologiens ont bien montré l'erreur de cela. « Honorer » voulant dire « donner le poids hein, », faire l'inventaire de ce qu'on a reçu. David va devoir faire cet inventaire. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon ? Et là, il va rencontrer tout un sentiment d'ambivalence qu'il va falloir qu'il construise. Et puis, je crois qu'il faut qu'il retrouve les émotions qu'on lui a empêché d'avoir, justement parce qu'il était dans ces blessures-là, quoi, et qu'il n'avait pas le droit de les avoir. Et une fois que tout cela, je dirais, est mis au propre, on va dire, eh bien, alors après, il peut commencer à reconstruire quelque chose de nouveau pour lui, quoi, hein, en lui se donnant la permission de dire ce qu'il est, et sans avoir peur d'être ni rejeté, ni trahi, ni abandonné, quoi.
C'est ce que vous appelez construire de nouvelles croyances.
Oui, on construit de nouvelles croyances, voilà, qui permettent que je peux être moi, sans cette peur, hein, qui maintenant n'a plus raison d'être rejeté, humilié, abandonné comme il était lui, quoi.
Et concrètement, David va élaborer quelles nouvelles croyances par rapport à lui-même, par rapport à son monde, par rapport à son entourage ?
Une croyance extraordinaire qu'il nous donne au psaume 139, au verset 14. Il dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. » Or, l'hébreu ici nous dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature miraculeuse. » Et il continue, il dit « Avant que la terre n'existe, tu me connaissais et tu savais tous les jours qui m'étaient comptés. » Quand on prend le texte hébreu, on pourrait traduire ça en français courant comme ceci « Avant qu'aucun atome de la terre existe, avant qu'aucun atome, même pas ma mère, même pas, donc avant qu'aucun atome de la terre existe, Dieu connaissait David. » Et c'est ce qui va lui donner cette valeur. Lui, l'enfant rejeté, lui, l'enfant humilié, lui, l'enfant abandonné, il fait remonter sa source de sa valeur dans la pensée de Dieu avant la création. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un changement fondamental dans ses croyances. Il n'est pas le fruit d'un accident, il n'est pas le fruit du péché de son père, hein, et de sa mère, bien sûr. Il est de la volonté de Dieu. C'est extraordinaire parce que voilà un enfant qui n'avait pas de place, qui ne devait pas exister, qui était une erreur statistique, on pourrait dire, hein, et qui va trouver la vraie raison de son existence, de son être, de sa valeur, dans la pensée de Dieu, dans l'amour de Dieu avant toute chose.
Et là, pour vous, en tant que pasteur, thérapeute, c'est quelque chose à quoi vous essayez régulièrement d'amener les gens avec lesquels vous êtes en contact, essayer de leur permettre d'ancrer leur identité en Dieu ?
Alors, je pense à eux de le découvrir, hein, et c'est un cheminement. Et je pense à deux personnes qui sont en train de cheminer et qui sont les racines de notre culture occidentale. Le premier, c'est Ulysse. Et Ulysse, on connaît tous, heureux comme Ulysse a fait un beau voyage. Quel beau voyage, je vous le demande, hein, parce qu'il finit par être personne à la fin de son histoire. Ulysse, il n'est personne, et on ne le reconnaît plus, on ne le reconnaît plus. Bon, Ulysse passe son temps à combattre les événements de la vie qui lui sont contraires, à se battre contre la vie pour essayer d'exister. Et l'autre personnage, je crois qu'il est plus le modèle pour nous et qui correspond à ce que je voulais dire, c'est Abraham, qui ne passe pas son temps à combattre, mais qui passe son temps à sortir de ce qu'il a reçu, tout en prenant ce qu'il est à prendre dans ce qu'il a reçu. Et qui va marcher, sans jamais revenir au même endroit, toujours aller vers lui, hein, donc pour se connaître, sans renier ce qu'il a été, mais sans prendre tout ce qu'il a été. Alors moi je vois souvent ça, les gens, c'est qu'il y en a qui veulent être, hein, en étant comme Ulysse, en se battant contre leurs sentiments, leurs émotions, leurs jalousies, leurs pulsions, mais c'est une bataille qui est perdue d'avance. Ulysse tourne en rond, il finit dans une caverne avec le cyclope où il se fait appeler personne, je disais, bon, et il revient victime, je dirais, des événements, sans avoir vraiment compris qui il était encore, tandis qu'Abraham va cheminer en essayant de comprendre constamment qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse de ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui me permet de devenir moi dans ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui m'empêche de devenir moi dans ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui me... Voilà, c'est ce cheminement-là, je crois.
Donc un Abraham serait un peu emblématique d'une sorte de thérapie, entre guillemets, que vous proposeriez ?
Oui, et d'autant plus que... emblématique, oui, bien sûr. Hein, d'autant plus qu'il y a un mot qui revient très souvent dans la vie d'Abraham, quand Dieu lui parle au patriarche, il lui dit « Regarde, sors et regarde ». Cette marche de prendre, de quitter ce qu'on a, reçu plus ou moins bon, elle est liée à ces deux mots. Regarde, c'est-à-dire, le mot est très très important parce qu'il a une signification particulière dans le texte, c'est regarde en haut pour voir en bas. C'est pas regarde à l'horizontale ce qui est devant toi, mais pour voir ce qui est devant toi, tu dois regarder en haut.
C'est un peu comme ça, David. C'est de nouveau acquérir une sorte de perspective qui s'ancre en Dieu pour trouver une sorte de nouvelle définition, de nouvelle identité.
Oui. Parce que si j'ai que quelqu'un qui est dans le monde fini, dirait Lul, ici, sur la terre, pour me dire mon infini, j'ai quand même un problème. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit au-delà de ce monde fini qui me dise qui je suis. Voilà. Il regarde, donc je disais à Abraham, regarde en haut, et il lui dit, sors et regarde. Et je crois que c'est ce que fait David, ce que nous sommes appelés à faire quand nous rencontrons l'échec, c'est sors, non pas abandonne, non pas fuis, hein, Caïn fuira. Abraham sort. Il marche, hein, et il prend ce qu'il a à prendre, et il ne prend pas ce qu'il n'y a pas à prendre, en regardant vers où il va. Quoi.
Jacques Poujol, on vient de faire un parcours autour de la personne de David, d'Abraham aussi. Mais si on reprend la personne de David, on se rend compte qu'il a dû faire donc un inventaire de tout ce qu'il habitait. Il a dû travailler ses émotions. En fait, une fois qu'il a pris conscience de tout cela, vers quoi doit-il marcher? Vers quoi doit-il aller à partir de cette identité nouvelle qu'il a acquise quelque part en Dieu?
Je crois que c'est notre problème à nous aussi, hein. C'est quand nous nous mettons en marche, il faut savoir vers quoi nous marchons. Sinon, le chemin qu'on va parcourir va être un chemin de découverte sans sécurité. On ne sait pas si on a bien fait le pas dans la bonne direction ou si on va aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite.
Mais comment s'y retrouver là? Quelle est la boussole qu'il faut avoir ou quel est le point qu'il faut viser?
Le point qu'il faut viser, je crois qu'il nous est donné dans l'Évangile et par Paul aussi, c'est la liberté. Je crois que tout ce qui emmène la personne, l'individu, à plus de liberté dans tous les domaines de sa vie, hein, donc qu'elle soit spirituelle, psychologique, physique, ne peut être qu'une bonne chose. Et je crois que c'est cette marche-là. Alors, dans cette marche vers la liberté, le point vers lequel nous marchons et que nous n'aurons jamais atteint, hein, mais que nous aurons toujours devant nous, il y a deux choses qu'on va rencontrer et qui vont un petit peu être à gérer. C'est notre désir de liberté qui est très fort en nous. Et en même temps, la peur que la liberté nous donne. Israël qui sort d'Égypte vers la liberté, eh bien, ils ont un petit peu peur. Il y en a qui veulent rentrer au pays d'Égypte parce que la liberté nous amène à la responsabilité. Et je crois que c'est ce que Dieu vise en nous, c'est de nous construire, d'être responsable dans cette marche dans la liberté, vers la liberté. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on est dans la liberté, mais on marche vers la liberté aussi. Je ne confonds pas, bien sûr, la liberté, le libertinage. Je dis la liberté doit prendre en compte tous les domaines de notre vie, quoi. Et aussi bien le domaine relationnel avec les autres. Autrement dit, je ne peux pas aller vers la liberté si ma liberté, c'est d'écraser l'autre pour y arriver, quoi. Et je crois que c'est le point ultime, c'est marcher vers la liberté, quoi.
Alors bon, vous parlez de liberté, c'est un peu un gros mot, mais comment est-ce que vous la définiriez de manière plus concrète pour essayer de nous donner un peu le goût de cette réalité-là?
Je crois que la liberté, c'est tout ce qui me permet de devenir moi. De devenir sujet. Donc, et je ne peux devenir sujet que dans un rapport juste, non seulement avec moi, avec les autres et avec Dieu. Et si on voulait paraphraser le père Varillon, on dirait il n'y a de sujet que du verbe. Donc, en marchant, je dirais, vers ce point qui nous a été montré, qui nous a été donné, qui est la liberté même, qui est Jésus lui-même, je dirais, qui est le modèle lui-même, je crois que nous allons construire le sujet que nous devons être. Et je crois que c'est le grand problème de notre époque, c'est un peu celui-là, c'est construire ces sujets qui sont en marche ensemble vers la liberté.
Et là, en quoi la figure du Christ, la figure de Jésus, à vous qui êtes pasteur, est vraiment une sorte de gage de liberté, de personne véritablement libérée?
Je pense qu'il nous a montré d'abord dans sa liberté de parole, de situation, sa liberté de parole, sa liberté dans ses rapports aux autres, aux autorités, aux politiques, aux financiers. Il a toujours eu une parole libre par rapport à toutes ces contingences-là, mais aussi par rapport à la mort. Il y a une liberté par rapport à la mort qui est celle qui veut nous donner à nous aussi.
Et donc cette capacité presque à faire don de sa vie, à s'offrir lui-même finalement, sans trop regarder à son ego et puis à son avenir.
Oui, parce qu'il avait des croyances justes sur lui-même. Il disait, personne ne m'enlève la vie, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Et quand je sais d'où je viens, et quand je sais où je vais, et que je sais vers quoi je vais et vers qui je vais, alors on ne peut plus m'enlever ma liberté, quoi.
Le pasteur et psychothérapeute français Jacques Poujol nous emmenait à la découverte de figures ou de personnalités de la Bible particulièrement marquées par l'échec. Alors Serge Carrel, non seulement Jacques Poujol est l'auteur de plusieurs livres, mais il anime aussi une démarche originale dans le monde virtuel.
Oui, avec son épouse Claire, qui est aussi psychothérapeute, il gère un site internet relations-aide.com et tous deux entretiennent une correspondance abondante avec des personnes en souffrance. Ils reçoivent aussi chaque semaine une dizaine de premières demandes de consultation de psychothérapie qu'ils orientent vers des personnes compétentes.
Alors, suite du parcours autour de ce thème regard croyant sur les échecs de la vie, demain, 16h30 pour une nouvelle édition, vous nous emmenez où?
Alors, en République démocratique du Congo, avec Rémi Toko, un pédiatre congolais. Et en 2002, il a dû quitter l'hôpital qu'il dirigeait à cause de la guerre civile qui ravageait son pays. Rémi Toko parlera de résilience, de dépassement, de l'échec quand on a dû faire face aux atrocités de la guerre.
Une guerre civile au demeurant qui continue, puisque c'est dans le Kivu, si je ne fais erreur.
Alors, c'est un petit peu plus au nord.
Un peu plus au nord.
C'est dans l'Ituri.
Merci, mais ça doit pas être bien meilleur, j'imagine, connaissant un peu le...
Effectivement, la situation est toujours très précaire là-bas aujourd'hui.
Donc rendez-vous demain à 16h30 pour cette édition à l'écoute de Rémi Toko. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la série de cette semaine ou commander les CD des émissions, n'hésitez pas. Visitez notre site religion.rsr.ch ou alors téléphonez-nous au 021 318 60 70. Aussi d'ailleurs pour nous faire part de vos remarques et commentaires. Merci d'être resté en notre compagnie. François Zieni réalise cette émission. Serge Carrel et Michel Cocher étaient au micro. Ils vous souhaitent à tous et à toutes une bien belle fin d'après-midi à l'écoute d'Espace 2. À demain donc. Thank you.